Place publique.
Le canton de Neuchâtel subit pour la première fois depuis 2001 une baisse de sa population. Est-ce grave, docteur ? À qui la faute ? La conjoncture économique ? La politique ? On en débat dans un instant. Les Suisses ne sont pas très chauds pour accueillir les JO en 2026. Un sondage montre que 60% de la population dirait non s'il fallait voter au sujet de ce projet prévu à Sion. Le maire de Bienne, Eric Fer, dont la ville pourrait accueillir certaines épreuves, est lui un fervent partisan de l'événement. Ses arguments vers 18h35. Enfin, nous allons recevoir l'auteure jurassienne Elisa Chua du Sapin, franco-coréenne d'origine. Elle nous parlera de son pays, la Corée du Sud, au centre de l'attention mondiale, alors que les Jeux Olympiques battent leur plein.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous. C'est une première depuis 2001, on l'apprenait hier. La population neuchâteloise est en déclin. Le canton comptait à la fin de l'année dernière 572 personnes de moins que l'année précédente, à tout de même 177 862 personnes, soyons précis. Une baisse observée aux quatre coins du canton malgré des exceptions, nous le verrons. Il s'agit essentiellement de la population étrangère qui est attirée sous d'autres cieux pour des raisons économiques. Un déficit non compensé par l'immigration indigène, puisque chaque année, le canton de Neuchâtel perd plusieurs centaines de personnes au profit des autres cantons suisses. Alors, comment inverser la tendance et mettre fin à l'exode des Neuchâtelois ? Comment fidéliser les travailleurs étrangers qui contribuent à la production de richesses ? Eh bien, on en débat avec nos deux premiers invités, tous deux députés. Fabio Bongiovanni, bonsoir.
Bonsoir.
Député PLR au Grand Conseil. Et avec nous également Antoine de Montmolin, bonsoir.
Bonsoir.
Député socialiste dans ce même Parlement. Alors, au-delà du frisson statistique, si on peut dire, on parle bien du premier déclin depuis 16 ans. Est-ce qu'il faut, Fabio Bongiovanni, s'en inquiéter ?
Oui, je crois qu'on peut être inquiet de cette situation qui remet en cause un peu l'attractivité de notre canton, que ce soit pour une migration intercantonale, mais aussi étrangère, comme vous l'avez souligné. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un facteur qui doit nous faire nous questionner sur l'attractivité de notre canton.
Qu'est-ce qui se joue au niveau de l'attractivité par rapport à ces chiffres, selon vous ?
Eh bien, c'est le constat que pour cette première fois, le canton n'arrive plus à attirer de nouveaux habitants pour des raisons diverses et variées. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en discuter. Et je pense que l'image aujourd'hui du canton joue un grand rôle dans cette situation démographique.
Antoine de Montmolin, on va essayer de comprendre aussi avec vous comment il faut interpréter ces chiffres. Alors, on parle beaucoup de la conjoncture économique. La politique, on imagine aussi, a sa responsabilité.
Oui, je pense évidemment. J'aimerais revenir sur votre question précédente. Je pense que c'est important de s'inquiéter, c'est bon de s'inquiéter que la classe politique puisse s'inquiéter et se poser des questions quand on voit le déclin d'une population. Mais je pense qu'il ne faut pas dramatiser et grossir le trait. C'est ce que vous avez dit. Quand on regarde les chiffres plus précisément, l'évolution négative, elle est due à un déclin, à un recul de l'immigration de population étrangère. Et ça, c'est lié directement à la conjoncture économique. On sait que le canton de Neuchâtel est particulièrement exposé aux variations de la conjoncture économique. Et ce qui se passe aujourd'hui simplement, c'est que la population étrangère, elle est permibée, en particulier la population la plus mobile, voit plus d'intérêt à partir travailler à l'étranger en particulier, plutôt que de venir dans le canton de Neuchâtel. Et donc, on ne peut pas non plus avoir l'analyse que politique canton de Neuchâtel, nous sommes en confetti dans la Suisse, en grain de sable dans l'Europe, et par conséquent, oui, il y a certains faits qu'on doit prendre comme des faits, justement, et partir de là. Donc, on ne peut pas non plus dramatiser l'implication politique, d'autant plus que c'est la première année de recul après 16 ans de croissance.
Mais d'autres confettis s'en sortent mieux, quand même. Les voisins,
d'autres
par exemple.
D'autres confettis s'en sortent mieux, vous avez bien raison, et comme d'habitude, et comme on l'entend souvent dans les débats ces derniers temps, le canton de Neuchâtel est particulièrement exposé de par la structure de son industrie et de son économie à la conjoncture économique européenne. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le canton de Neuchâtel affiche une timide reprise et dans le même temps, certaines régions économiques en Europe, comme le Portugal, connaissent une croissance beaucoup plus forte et donc offrent des opportunités bien plus intéressantes. Mais quand la conjoncture économique va mal, européenne va mal, le canton de Neuchâtel va pas bien non plus, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Et c'est ce qui va probablement se passer, c'est ce qu'annoncent les premiers signaux économiques. Dès l'année prochaine, il devrait y avoir une reprise peu à peu de l'économie neuchâteloise.
Une note d'espoir. Alors, si le canton de Neuchâtel perd en moyenne des habitants, certaines communes tirent leur épingle du jeu. C'est le cas de Boudry, qui a enregistré l'année dernière une hausse de près de 5% de sa population par rapport à 2016. Alors, l'un de ses conseillers communaux, Jean-Pierre Leuenberger, nous donne la recette magique.
La recette magique pour Boudry, elle est simple, c'est que Boudry présente une réserve, je dirais, de terrain à bâtir. Ces terrains à bâtir ont été réalisés par une offre de logement qui est assez conséquente, et l'exemple frappant, c'est le plateau de la gare qui offre de bons logements, de beaux logements. Et deuxièmement, c'est la situation de Boudry qui finalement est une situation tout à fait favorable et qualitative au point de vue qualité de vie. Voilà.
Vous n'avez pas la fiscalité la plus attractive du canton. Ce n'est pas ça le critère déterminant pour vous ?
En effet, la fiscalité, ce n'est certainement pas la nôtre qui attire la population, sachant que si je regarde sur les deux voisins immédiats de Boudry, nous avons une différence d'au moins plus de 6 points par rapport aux deux voisins, je dirais, de l'Est et du Sud. Voilà.
Néanmoins, au niveau cantonal, quand on écoute les témoignages des Neuchâtelois qui ont préféré s'établir dans des cantons voisins, on a l'impression que l'impôt est un critère déterminant.
En effet, l'impôt pour les personnes physiques, je dirais, est à prendre en compte. Et si je regarde sur l'ensemble du canton, l'impôt sur les personnes physiques est encore trop élevé et les décisions qui ont été prises il y a quelques années au Grand Conseil n'ont pas encore été réalisées. Et c'est certainement aussi une raison pour laquelle il y a un certain exode.
Mais on le sait, les finances cantonales sont au plus mal. En plus, vous l'avez rappelé, la fiscalité des personnes physiques n'a pas encore été abaissée. Est-ce que ce n'est pas la quadrature du cercle ?
Bon, la quadrature du cercle comporte différentes choses. Il y a l'aspect attractif pour les entreprises. Il y a aussi l'imposition des entreprises qui est aussi à revoir. Je parle des exonérations de dizaines d'années pour les entreprises. Il s'agit aussi ici de diminuer, de trouver une autre façon d'imposer les personnes morales. Et là, je dirais, il y a encore quelques moyens de trouver, des ressources. Deuxième chose, il s'agit aussi d'améliorer toute la mobilité, mais ça, c'est un long chantier qui est en marche. Et je crois qu'avec ces deux choses, on arriverait déjà à combler notre défi ici.
Antoine de Montmolin, une réaction à ces suggestions de Jean-Pierre Leuenberger, donc conseiller communal de Boudry.
Déjà une réaction à la situation de Boudry. C'est vrai que ça doit déplaire au PLR, j'imagine, qui en général présente la fiscalité comme le facteur unique de l'attractivité d'un canton, que l'exemple de Boudry aille dans le sens contraire, où au fond, véritablement, ce qui a attiré des citoyens supplémentaires, des habitants supplémentaires, c'est la qualité de vie, l'emplacement de la commune et sa connexion, et donc les transports publics, et l'offre de logement. Et c'est tout à fait ce qu'au Parti Socialiste, on veut promouvoir pour le canton de Neuchâtel.
Fabio Bengiovanni, une réponse quand même à ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas le critère déterminant unique, les impôts. Il ne faut pas être complètement obnubilé par cette question. Antoine Beaumolin dit que c'est le cas du PLR. Votre réponse ?
Alors, je ne connais pas la situation précise de Boudry et je ne sais pas si l'augmentation de sa population est due uniquement à des flux intercommunaux ou bien s'ils arrivent aussi à capter des nouveaux habitants d'hors canton. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, le poids de la fiscalité, certes, qui n'est pas l'unique élément qui est pris en considération par les habitants du canton, est à mettre dans la balance, la qualité de vie aussi, les infrastructures qui sont proposées. Moi, ce que je constate, c'est que la commune de Boudry apparemment investit passablement pour son développement, ce qui est parfaitement réjouissant, c'est-à-dire qu'elle utilise les recettes de l'impôt pour investir pour sa population, c'est parfaitement réjouissant, mais aujourd'hui, Monsieur Leuenberger parlait de l'imposition des entreprises, mais ce sont les entreprises elles-mêmes qui nous disent que l'imposition des personnes physiques devient un problème pour eux aussi, parce qu'ils ne trouvent plus la main-d'œuvre suffisante, parce que l'image du canton de Neuchâtel et sa fiscalité pèse de manière très lourde chez les chez la population qui souhaiterait venir s'installer à Neuchâtel. Et puis dans les éléments de grands projets mobilité aussi qui a été évoqué, j'espère franchement que le projet mobilité 2030 avec ce réseau extrêmement important qu'on devra mettre en place sur tout le canton permettra un développement un peu à l'image de ce qui se fait actuellement dans le canton de Vaud et plus particulièrement en ville de Lausanne, avec un essor et un développement autour du M2 qui est juste remarquable.
Eh bien, on va continuer ce débat après le flash, c'est-à-dire le rappel des principaux titres de la journée qui nous est donné, le flash par Alizé Lichty.
Bonsoir. Un corps a été repêché aujourd'hui dans la Thielle près d'Yverdon-les-Bains. L'information a été révélée par nos confrères de 20 minutes. La police cantonale a confirmé l'intervention menée en collaboration avec la brigade du Lac. Une personne décédée a effectivement été tirée des eaux de la Thielle. Aucune information supplémentaire n'a été donnée pour l'instant. Les résultats de la banque cantonale neuchâteloise continuent de progresser et pour la 13e année consécutive, la BCN affiche un bénéfice net de 37,6 millions de francs en 2017, une hausse de 2,3% par rapport à l'année précédente. La banque profite de la reprise économique et du développement des prêts à la clientèle. La journée équestre de Murio est repoussée, la faute à la météo qui a contraint les organisateurs à repousser la course d'attelage de ski attelée. Tous les signaux étaient pourtant ouverts, mais la pluie et des températures de 7 degrés sont attendues pour ce week-end. Il faudra donc patienter jusqu'au 11 mars pour prendre part à la compétition. Et du sport avec la Suisse qui a complètement raté son entame dans le tournoi olympique de curling classique. Au lendemain de l'argent décroché en mixte, l'équipe masculine du CC Genève a perdu contre la Grande-Bretagne et l'Italie. D'abord dominée 6-5 après un end supplémentaire par les Britanniques. Ils ont ensuite subi la loi des modestes Italiens sur le score de 7-4. Et puis le ciel sera couvert demain avec pas mal d'averses. La limite des chutes de neige va à nouveau s'abaisser vers 1500 à 2000 mètres d'altitude. Côté température, il fera moins 2 degrés demain matin à Delémont, moins 5 à Tramelan, moins 4 à Dombresson et moins 1 à Neuchâtel et à Bienne. Et puis au meilleur de la journée, les maximales pourraient atteindre 3 degrés. Excellente soirée.
Place publique. Et on poursuit notre débat qui part d'un constat. La population neuchâteloise est en déclin, une première depuis 16 ans. La conjoncture économique joue un rôle, bien entendu, mais aussi l'attractivité du canton. Antoine de Montmolin, le Conseil d'État a aussi sa recette, hein, et je crois qu'il y a un grand consensus sur le fait que la fiscalité des personnes physiques doit être abaissée. Mais on a l'impression qu'avec la crise financière et institutionnelle que traverse le canton, ça va être très difficile. Est-ce qu'il en sera seulement capable ?
Écoutez, un point quand même, pour revenir également sur ce que vous disiez avant, la fiscalité des personnes physiques, en particulier pour les familles, a déjà été abaissée durant les dernières années. Donc bien sûr, il y a peut-être des efforts supplémentaires à faire et évidemment, ça doit être fait au regard de la capacité financière du canton au niveau cantonal. Un point sur la fiscalité quand même, c'est que si un repositionnement est nécessaire pour rester, ou est peut-être nécessaire en tout cas pour rester attractif, il est peu probable que le canton de Neuchâtel fasse de la fiscalité son argument principal pour attirer des nouveaux habitants, simplement parce qu'aujourd'hui nous sommes plutôt dans les tréfonds des classements que dans les premières places. Et effectivement, dans ce cadre-là, la fiscalité seule ne sert à rien. Et ce qu'il faut développer en parallèle, et là je fais écho au propos de M. Bongiovanni, c'est par exemple les logements, par exemple la qualité de vie ou les investissements comme ça se fait dans plusieurs communes par exemple.
Messieurs, le climat reste quand même anxiogène, hein, avec des annonces de coupes financières en l'absence de budget, un plan financier aussi très restrictif pour ces prochaines années. De plus, ce ne sont pas les tentations d'habiter ailleurs qui manquent, hein. Il suffit de se promener un peu aux frontières du canton de Neuchâtel pour voir des projets immobiliers attractifs poussés comme des champignons. Qu'est-ce qui doit, selon vous, motiver les Neuchâtelois à rester, à y croire, comme vous, Fabio Bongiovanni?
Oui, alors tout d'abord, je tiens à préciser que si effectivement la fiscalité qui pourrait être abaissée ne devait pas devenir le seul argument à proposer à la population, il faudrait au moins que ça ne soit pas un désavantage rédhibitoire pour pouvoir rester habiter dans le canton de Neuchâtel. Maintenant, moi, ce que je constate, c'est que vous avez évoqué le marasme ambiant, la situation de budget qui n'est pas débloquée aujourd'hui. Je crois savoir que la commission financière travaille d'arrache-pied pour que nous ayons une solution qui permette de débloquer passablement de choses que vous avez évoquées. C'est aussi par là qu'on recommencera à donner envie à habiter dans le canton de Neuchâtel. Et puis, je reste convaincu que la situation fiscale qui sera proposée aux nouveaux habitants sera un élément qui permettra déjà de garder les habitants neuchâtelois, parce que jusqu'à maintenant, on a constaté que par le passé, nous perdions en substance fiscale, c'est-à-dire que la population continuait d'augmenter, mais c'est la qualité de celle-ci, la qualité contributive de celle-ci qui diminuait. Et aujourd'hui, en tout cas pour la première fois, c'est aussi la quantité qui commence à faire défaut, puisqu'on a un retournement de situation et d'effets démographiques.
Antonio Momolin, le mot de la fin pour vous. Qu'est-ce qui doit motiver les Neuchâtelois à rester dans le canton et à y croire comme vous ?
Peut-être déjà un élément là-dessus, c'est que chaque année, donc 2000 Suisses, 2000 confédérés d'autres cantons que Neuchâtel, plus de 2000 décident de venir s'implanter, habiter dans le canton de Neuchâtel. Donc déjà, ça montre que oui, le canton de Neuchâtel a certains moyens et certains atouts pour attirer la population des autres cantons. Et c'est ce qui doit, nous, politiques, ce que nous devons mettre en œuvre, c'est les réformes nécessaires pour améliorer l'image du canton, pour améliorer l'attractivité du canton en termes de logement, en termes de qualité de vie, et aussi, on doit le dire, dépasser les bisbilles politiciennes qui ont lieu ces derniers temps au Grand Conseil, qui ont au final abouti sur le refus d'un budget, et ça, évidemment, ça péjore grandement l'attractivité, l'image du canton en dehors des frontières.
Merci infiniment, messieurs, d'être venus parler de l'attractivité du canton de Neuchâtel à la lumière des chiffres démographiques qui annoncent donc une première baisse depuis 16 ans. On vous souhaite une bonne soirée. Fabio Bongiovanni et Antoine de Montmolin.
Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Place publique.
Et tandis que la compétition bat son plein en Corée du Sud, un sondage Tamedia publié dimanche montre que les Suisses ne rêvent pas de Jeux Olympiques d'hiver sur leur territoire. 6 personnes interrogées sur 10 ne veulent pas en entendre parler des Jeux Olympiques de 2026 à Sion, et encore moins entendre parler du milliard de francs que la Confédération est prête à dépenser. Les JO 2026 prévoient, on le rappelle, des compétitions essentiellement en Valais, mais aussi dans les cantons de Berne, Fribourg, Vaud et des Grisons. Et sachant que Bienne accueillerait notamment les épreuves féminines de hockey sur glace, on ne s'étonnera pas de voir le maire de Bienne, Eric Fer, parmi les fervents défenseurs du projet. Lors d'un entretien enregistré tout à l'heure, nous lui avons demandé comment il interprétait tout d'abord cette méfiance de la population suisse.
Je pense qu'il faut se rendre compte que les derniers Jeux Olympiques ou les différentes des dernières éditions ont été très très coûteuses. Il y a eu beaucoup d'investissements qui n'ont pas pu être utilisés par la suite. Et donc, il faut d'abord créer la confiance que ces Jeux Olympiques 2026 en Suisse seraient différents, comme il est souhaité par les organisateurs, comme il est souhaité par notre ville, mais comme il est aussi souhaité par le Comité international olympique.
On peut parler quand même d'un mauvais présage, hein, sachant que sans doute le peuple suisse aura à se prononcer, et déjà en février de l'année prochaine.
Des fois, quand le temps est court, ça développe une énergie supplémentaire. Et ce qui me semble important, nous sommes un pays avec une grande tradition de sport d'hiver, avec de très belles stations de ski surtout, qui souffrent aujourd'hui d'une fréquentation à la baisse, même si cet hiver-là, puisque les conditions sont bonnes, le recul a pu être freiné, mais en tendance générale. Et des Jeux Olympiques sur base d'infrastructures existantes seraient une plateforme extrêmement bienvenue pour le tourisme d'hiver suisse de se présenter au monde entier avec tous les atouts qu'il a.
Il n'y a pas que la population qui est méfiante, il y a aussi les parlementaires sous la coupole fédérale qui jugent aussi cette manifestation bien trop coûteuse, avec notamment une alliance contre nature entre UDC et Vert. Décidément, ça fait quand même beaucoup d'opposants.
Pour l'instant, oui, mais les discussions de détail n'ont pas eu lieu. Et ce qui est surtout important, c'est que le comité d'organisation, sous la direction de M. Stahl, de l'UDC, trouve un arrangement avec le comité international olympique qui permet de justement plafonner les coûts, qu'il n'y ait pas une sorte de garantie de déficit avec un chiffre inconnu approuvé par la population. Je pense que cette mesure, ce rassurement, il le faut.
En tout cas, il y a de la pression, hein, puisqu'il y a des experts qui vont aussi de leur avis, comme par exemple l'ancien président de la direction générale des CFF, Benedikt Weibel, qui dans la presse récemment disait que les coûts étaient sans doute bien trop sous-évalués. Lui qui a travaillé pour l'Euro 2008, on pourrait le croire.
J'aime bien Benedict Weibel, c'est un homme que j'apprécie beaucoup, mais il faut aussi dire que avant l'Euro 2008, bien entendu que la question au niveau de la sécurité mondiale était un peu différente, mais aussi là, on avait de grandes craintes. Et finalement, c'était une fête magnifique. Je pense que les cortèges des Hollandais à travers la ville de Berne sont inoubliables. Et c'est aussi un peu par cet esprit-là qu'il faut se laisser influencer et pas seulement en parlant que de risques du jour, du matin au soir.
Si on laisse de côté la sécurité et qu'on parle budget, apparemment les incertitudes sont élevées pour savoir s'il est équilibré, tout comme par exemple le niveau des retombées économiques pour l'économie locale. Tant le cahier des charges d'une telle manifestation est connu et tant ce sont plutôt des marques internationales qui tirent leur épingle du jeu.
Alors en ce qui concerne ça, je peux surtout vous parler de la situation de la ville de Bienne. Nous avons avec la Tissot Arena un stade magnifique qu'on peut utiliser sans autre pour le tournoi olympique de hockey féminin sans aucune restriction. On pourrait aussi y faire le championnat de curling, le championnat olympique de curling, deux sports d'ailleurs où les Suisses actuellement brillent en Corée du Sud. Et en ce sens-là, la mise à disposition d'une infrastructure existante qui permet en principe, sans une majeure adaptation, d'être utilisée pour les Jeux olympiques, c'est une chance unique et ça correspond justement aux idées de jeux durables comme c'est prévu pour 2026 en Suisse.
Alors pour Berne, c'est vrai, les infrastructures existent. Les Bernois qui devront eux aussi probablement se prononcer sur ce million qu'est prêt à investir le conseil exécutif.
Oui, je pense que si on peut mettre en valeur avec ça Berne, Bienne et l'Oberland bernois, il faut un peu ouvrir le regard de Kandersteg. On va parler aussi d'autres sites si on s'y lance. Évidemment, 1 million pour la publicité que peuvent vous faire les Jeux Olympiques, c'est bien investi par rapport aux sommes que nous devons chaque année. Et tout à fait sens, de manière tout à fait sens, et mettre à disposition pour la promotion du tourisme dans le canton de Berne.
Alors on le sent bien que du côté de Berne, eh bien les infrastructures existent et puis que le jeu en vaut la chandelle, ce serait trop bête de ne pas tenter le coup. Néanmoins, le canton de Berne est prêt à dépenser 1 million pour ces jeux alors qu'il doit se serrer la ceinture dans le cadre de son budget. Est-ce que là, les circonstances encore ne vont pas jouer contre un feu vert de la population?
Vous me provoquez presque à dire que si jamais ce million n'est pas accepté, c'est la conséquence d'une fausse politique financière menée par le gouvernement cantonal, car en effet, ici on parle d'un million, c'est une grande somme en tant que telle, mais si on regarde le budget cantonal avec tous les milliards qu'il y a là-dedans, ce n'est pas une grande somme, et le canton de Berne ferait mieux de pérenniser ses recettes, d'investir dans la formation et dans les infrastructures, et ça lui permettrait aussi d'investir dans de tels projets que de toujours parler qu'on est au bout de la faillite, entre guillemets, que les caisses sont vides. Le canton de Berne, même s'il réduit légèrement la charge fiscale, ne pourra pas être concurrentiel avec les pays de la Suisse, les cantons, excusez-moi, de la Suisse primitive, mais il perdra ses atouts et surtout, il nie et il oublie qu'il a des régions périphériques pour lesquelles il faut investir davantage.
Le vote crucial, c'est le vote valaisan, c'est celui qui peut tout simplement clore l'histoire avant qu'elle n'ait commencé. Il aura lieu au mois de juin sur 100 millions de francs que le canton est prêt à dépenser. Est-ce que vous y croyez dans le contexte actuel?
Je pense qu'aussi du côté du Valais où on a toujours senti le feu pour les Jeux Olympiques, surtout je me rappelle de la candidature 2006 où je me rappelle de la tristesse en 99 quand ça n'avait pas abouti. Je pense aussi que là il faut encore rassurer, mais les Valaisans qui sentent pas seulement une station d'hiver, mais un canton de station d'hiver, je pense, sont tout à fait conscients de l'impact médiatique et donc de l'impact publicitaire que les Jeux Olympiques peuvent avoir, toujours en respectant la nature et en se basant sur les infrastructures existantes.
Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent qu'à cause du réchauffement climatique et de l'enneigement toujours plus rare, un tel événement qui promeut le tout au ski va finalement à rebours du bon sens?
Je trouve que simplement cet argument est faux et donc il faut faire le travail de conviction pour expliquer aux gens dans quelle mesure c'est une chance de présenter les magnifiques montagnes que nous avons, les Alpes. C'est vraiment magnifique. Et c'est quand vous discutez avec quelqu'un qui vient d'un pays plat, qui voit la première fois les Alpes, les gens sont toujours écœurés de voir tout ça et c'est là-dessus qu'il faut miser.
En tout cas, votre prédécesseur à la mairie de Bienne, le conseiller aux États bernois Hans Stöcklin, est autre que le vice-président du comité de candidature de Sion 2026. Ça veut dire quoi? Les Biennois ont la fibre olympique, le sang olympique?
Alors ça, c'est un hasard. Moi, je trouve que ça ferait sens d'organiser le tournoi olympique de hockey féminin à la Tissot Arena à Bienne pour les raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure. Ce n'est pas pour faire plaisir à Hans Stöckli. Hans Stöckli, je pense que lui, il a plutôt pris le goût de grandes manifestations après l'Expo 02 et la fête fédérale de gymnastique en 2013. Donc, les motifs sont différents, mais des motifs différents peuvent amener à la même conclusion.
Et c'était Éric Fer, maire de Bienne.
Place publique.
Et on accueille notre dernière invitée, Elisa Chuat-du-Sapin. Bonsoir. Bonsoir, on vous entend, j'espère, mais je crois que oui. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivaine, jurassienne d'origine franco-coréenne. Et vous allez publier lors de la prochaine rentrée littéraire, au mois d'août, votre deuxième roman, après avoir brillé avec le premier, intitulé « Hiver à Sokcho », une histoire qui se déroule en Corée du Sud, dans la province même des Jeux, là où les Jeux ont lieu. Alors, première question, comment vous vivez, après plusieurs jours, cette période olympique qui met l'un de vos pays d'origine au cœur de la tension mondiale ?
Il y a deux choses qui me touchent, plus que les Jeux en eux-mêmes. C'est l'attention qu'il peut y avoir sur ce pays, effectivement. Peut-être un peu au-delà des tensions géopolitiques qu'on connaît bien maintenant au niveau international. Et ce qui permet de s'intéresser un peu plus près à la culture. Et la deuxième chose, peut-être plus précise, c'est que les Jeux se déroulent dans la province de Gangwon, qui a été pendant longtemps la province oubliée de ce pays, qui s'est urbanisée sur le tard, et cette province encore plus sur le tard.
On est au nord-est du pays, pas trop loin de la frontière.
Non, effectivement, on est vraiment à la frontière, en fait. Et donc, j'ai l'impression que c'est peut-être une double occasion pour ce pays de montrer voilà, quelque chose qui brille un peu plus que ce conflit.
Si on compare avec le Japon ou la Chine, est-ce qu'on peut dire que votre pays reste somme toute relativement méconnu, mis à part les téléphones Samsung ou le kimchi pour les plus gastronomes ?
Oui, j'ai l'impression qu'étonnamment, en fait, la Corée du Sud a, ces dernières années, ou peut-être cette dernière décennie, énormément exporté l'image de la musique pop ou du cinéma, les dramas, enfin, ces sortes de productions à la chaîne.
C'est vrai que pour les plus jeunes d'entre nous, la Corée du Sud commence à se faire un nom, contrairement aux gens de ma génération qui ont un peu vieilli.
Oui, c'est vrai. Alors, peut-être qu'une forme de culture culinaire, maintenant, effectivement, commence à s'exporter. Mais j'ai l'impression que oui, on connaît quand même relativement mal. Je suis toujours surprise quand on me demande par exemple si ça ressemble à la Chine ou au Japon, qui sont déjà en eux-mêmes des radicalement, enfin très très différents. Et la Corée, c'est encore très différent de la Chine et du Japon. Donc, ouais.
J'allais vous poser la question sur le Japon, mais je vais le faire tout à l'heure. Situez votre premier roman d'ailleurs en Corée du Sud, au-delà de la quête identitaire ou de la problématique identitaire qui vous concerne, c'était aussi quand même une volonté de mieux faire connaître ce pays.
Dans le premier roman ?
Oui.
Non, c'était pas du tout ma première volonté. Je crois que ça partait de quelque chose de très intime, en fait, qui était de me positionner, moi, en tant que franco-coréenne, ayant grandi principalement en Europe. Quel était ce lien avec ce pays maternel ? Quel était le lien avec la langue maternelle aussi ? Je pense que la conscience qu'il allait être publié est venue en plus après coup, donc c'était pas un but premier. Mais après, c'est clair que avec les retours de lecteurs qui me posent beaucoup de questions sur la Corée, le retour de lecteurs coréens, parce que le livre a été traduit, m'apporte aussi à moi-même d'ailleurs un enrichissement incroyable, parce que ça me permet de me poser de nouvelles questions que j'aurais jamais soupçonnées à la base, et qui sont toujours très différentes selon qu'elles viennent de Corée ou de Suisse ou de France.
On peut vous lire ou vous entendre, hein, parce que vous accordez pas mal d'interviews ces temps. On peut vous lire dans plusieurs articles de presse. Vous parlez de cette société coréenne actuelle. Et puis, vous en dressez un portrait sans complaisance, on peut dire. Une société où l'ultra-consommation cohabite tant bien que mal avec des valeurs ancestrales. Une société aussi très stressée, avec des jeunes adeptes de la chirurgie esthétique à ne plus savoir qu'en faire.
Oui, mais alors ce sont des ressentis que j'ai vraiment pu vivre en fait au contact de jeunes Coréens étudiants qui m'ont majoritairement parlé de ce grand stress, et même les jeunes salariés qui ont vraiment cette peur extrême du licenciement, parce qu'il y a une telle compétition dans ce pays. Mais d'une certaine manière, c'est peut-être la conséquence aussi d'un pays qui a pu émerger au niveau international de manière fulgurante et qui est devenu quand même une des grandes puissances contemporaines, avec des multinationales que tout le monde connaît littéralement. c'est peut-être l'aspect positif finalement de ce côté ultra performant qui permet de, voilà, d'être présent à ce niveau-là, mais peut-être au dépend d'un bien-être personnel.
Donc votre Corée de cœur existe toujours ?
Bien sûr, elle existe, parce que là, je pense qu'on parle beaucoup de ce qui peut se passer dans la plupart, en fait, des mégalopoles du monde, dans la plupart des capitales aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Séoul compte quasiment la moitié de la population du pays, et l'autre moitié est répartie sur tout le territoire. Donc ça fait une très, très grande agglomération, mais tout le reste du pays, en fait, vit vraiment à une autre vitesse qui, à mon sens, est beaucoup plus proche de quelque chose d'humain.
Votre prochain roman, lui, se déroule au Japon. Vous aviez dit que c'était totalement différent, que vous étiez étonné de la naïveté des questions qui revenaient souvent. J'ai la même question. Le Japon, ce n'est pas une autre forme de Corée ? Est-ce que ce n'est pas deux pays assez proches ?
Ce sont deux pays très proches par leur histoire, dans le sens où il y a eu une longue colonisation japonaise en Corée du Sud. Avant cette période plutôt sombre de l'histoire au XXe siècle, il y a eu beaucoup d'échanges très fructueux, culturels, de marchandises, de langues et de cultures. Là, je m'intéresse à ce pays parce que j'ai eu l'occasion d'y voyager beaucoup ces dernières années et j'ai été frappée par la présence encore d'une forme de... de tension en fait entre la Corée et le Japon, comme il a pu y avoir peut-être entre l'Allemagne et la France pendant la Seconde Guerre mondiale, mais avec quelque chose qui au contraire de l'Europe, c'est un peu sclérosé dans le point de vue qu'on peut avoir sur les deux pays. Et en tant que Suissesse, comme le Japon et la Corée d'ailleurs sont assez fascinés par la Suisse, ça m'a amusée autant qu'interpellée d'étudier un peu ces rapports avec un point de vue suisse.
Ces Jeux olympiques sont l'occasion d'un réchauffement des relations entre les deux Corées. On a beaucoup parlé de cette équipe de hockey féminine unifiée, voire même de la présence de pom-pom girls coréennes du Nord qui fascine ou dérange. Comment vous interprétez cette forme de rapprochement ?
Je l'interprète peut-être comme je considère les Jeux olympiques comme quelque chose de magnifique au moment où ça se passe, mais avec tout le côté peut-être sombre ou voire hypocrite qu'il peut y avoir derrière, dans le sens où je pense que j'ai l'impression, au niveau très personnel, qu'une réunification absolue n'aura jamais lieu, en tout cas pas dans les prochaines décennies, et que voilà, on parle de trêve olympique, on parle de trêve au niveau politique à ce niveau-là, mais... Je ne sais pas à quel point les retombées après le feu d'artifice peuvent être d'autant plus sombres, parce que c'est toujours... après les grandes joies, on connaît toujours des périodes de creux, et quel sera ce creux, c'est la question que tout le monde se pose, je crois.
Parce que ces derniers temps, on ne peut pas dire que les tensions étaient absentes, avec sur fond d'essais de missiles nucléaires, de pression américaine, de déclarations de guerre ou presque. Comment vos proches et vous-même à distance, vous vivez cette incertitude très inquiétante ?
Ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai l'impression que mes proches en Corée du Sud vivent avec beaucoup moins d'inquiétude ce phénomène que nous, depuis l'extérieur, s'est fait relayer par la presse internationale. Alors là, je viens de passer 6 mois aux États-Unis et c'était très intéressant pour moi aussi de considérer cette histoire, ces faits, depuis le point de vue américain. Parce que c'est aussi peut-être là que j'ai réalisé que, en fait, la Corée du Sud est peut-être un peu plus inquiète même des liens entre les États-Unis et la Corée du Nord que ses propres liens avec les voisins du Nord. Dans le sens où, si un jour il y a un problème entre ces deux pays-là, la Corée du Sud sera très probablement la première concernée, mais elle n'a en fait au fond pas vraiment de marge de manœuvre.
Elisa Chouette du Sapin, pour terminer, un conseil rapide pour ceux qui aimeraient approfondir leur connaissance de la Corée du Sud après les images des JO. Il faut commencer par quoi ? Par un restaurant du coin ? Par un livre en particulier après le vôtre ?
Mais là, en fait, en janvier, les éditions Zoé viennent de publier pour la première fois la traduction française d'un grand classique coréen qui s'appelle « Trois générations » de Yeom Sang-sop, qui retrace en fait l'évolution entre les générations, trois générations qui ont vécu la domination japonaise, la Seconde Guerre mondiale, et ensuite ce redressement économique. Moi, je le lis en ce moment et en fait, je redécouvre tout un pan de l'histoire que me racontait mon grand-père, mais avec ce point de vue littéraire, vraiment magnifique. Donc, je le recommande à tout le monde, qu'on soit intéressé par la Corée ou pas d'ailleurs. C'est vraiment très bien écrit.
Merci beaucoup, Elisa Chouette du Sapin, d'être passée dans Place Publique pour nous parler de la Corée du Sud telle que vous la percevez, vous la voyez. On vous souhaite évidemment une bonne suite, plein succès pour votre prochain roman qu'on ne manquera pas de suivre, évidemment. Bonne soirée.
Merci.